Une histoire de la naissance par René Friedman. Médecin depuis plus de 40 ans, j'ai œuvré au sein d'une spécialité en pleine évolution technique et sociétale, qu'on appelle la reproduction humaine. Des premières fécondations in vitro, à la chirurgie gynécologique à ventre fermé, les premières échographies obstétricales aux premières anesthésies péridurales, j'ai eu la chance de vivre tous ces événements. Aussi, j'ai vu défiler un véritable roman de situations particulières et uniques, souvent éclatantes de joie, mais parfois d'une tristesse infinie. Naître au monde est d'une épuisante splendeur. Cette phrase, écrite par le poète Édouard Glissant, sur le fronton d'une exposition temporaire, dont je fus avec l'anthropologue Alain Epelboin, l'un des commissaires d'exposition, intitulée « Naissance » et qui vit le jour au Musée de l'Homme à Paris il y a quelques années. Reprenons. Naître au monde est une épuisante splendeur. Tout est contenu dans cette phrase, en même temps l'espoir et en même temps le côté parfois difficile. Chaque année, les chemins de la naissance donnent vie à près de 140 millions d'enfants de par le monde. C'est dire combien l'humanité, et plus particulièrement chacun d'entre nous, est ou sera concerné par les mystères de la naissance. Premier épisode, mythologie et naissance. Ce qui est fantastique dans la mythologie, c'est que tout est possible. Les divinités ou les êtres exceptionnels peuvent naître n'importe où, n'importe comment, ce qui ne nous empêche pas de transposer ces situations extraordinaires ou bien de rechercher leur profonde signification. Prenons par exemple Zeus, le géniteur suprême des Grecs. Chronos, son futur père, ayant appris qu'il perdrait son trône à cause de ses fils, décida d'avaler dès leur naissance les 5 premiers rejetons. De nombreux tableaux et sculptures relatent ces scènes particulièrement étranges. Lorsque Rhéa, la femme de Chronos, fut à nouveau enceinte, elle décida de substituer le nouveau-né par une pierre enveloppée d'un linge, ce qui trompa son goulu de mari. Elle déposa le nouveau-né, qu'elle prénomma Zeus, en Crète, dans une grotte sur le mont Ida où il grandit. Et bientôt, le voilà, jeune homme, est marié avec Métis, sa femme, qui va l'aider pour que Chronos rejette, revomisse ses frères et sœurs qu'il avait précédemment avalés. Zeus va s'unir à eux, afin de combattre son père, et une fois celui-ci vaincu, Zeus deviendra le roi des dieux. Alors là, on rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire les naissances extraordinaires. Métis, la femme de Zeus, est enceinte et l'histoire se répète, ce qui prouve que les mythes ont la vie dure. Zeus est prévenu que son premier fils le renversera. Présenté comme un jeu, il demande à Métis de se transformer en une chose la plus petite possible. Une larme, par exemple. Chose dite, chose faite, et Zeus se précipite sur elle pour l'avaler alors qu'elle est enceinte de ses œuvres. Quelques mois plus tard, alors qu'il est pris d'un violent mal de tête, Zeus demande à un autre de ses fils, Héphaïstos, le dieu forgeron, de lui fendre le crâne d'un coup de hache. Et c'est Athéna qui jaillit de la tête de Zeus, brandissant sa lance et son bouclier. Athéna, protectrice d'Athènes, a été une déesse vierge, mais elle eut quand même un fils, Erichthonios. Ce qui se passe, c'est que Héphaïstos eut un faible pour Athéna, bien que ce soit sa demi-sœur. Et pris d'un désir ardent, il ne peut se retenir et souille la robe de celle-ci. Athéna détache le morceau souillé de la semence d'Héphaïstos et le lance sur l'Olympe. Le tissu féconde la terre et bientôt va naître son garçon, le petit Erichthonios. Ce n'est pas tout. Après avoir avalé Métis, Zeus épouse Héra. Cette dernière était très jalouse. Il faut dire qu'elle avait de quoi parce que Zeus avait de nombreuses aventures. Dans cet épisode mythique, Zeus attend un enfant de la femme dont il est amoureux à ce moment-là, à côté de Héra, enfin en dehors de Héra, et qui porte le charmant nom de Sémélé. Héra monte alors un stratagème pour la foudroyer et la réduire en cendres. Mais Zeus, au courant, va faire extraire par Hermès la créature qu'elle portait depuis 6 mois en son sein. il va la coudre dans sa cuisse. Dionysos, puisque c'est de lui qu'il s'agit, va naître ainsi 3 mois plus tard de la cuisse de Zeus, ou de la cuisse de Jupiter, puisque c'est l'équivalent romain du dieu grec. Dionysos signifie « né deux fois ». Quittons la Grèce pour d'autres civilisations. Par exemple, la naissance de Gautama, celui qui va devenir le Bouddha. Là, c'est un être humain et non un dieu. Il va devenir le Bouddha par lui-même, et Bouddha, comme vous le savez, veut dire l'éveillé. Nous sommes au 5e ou 6e siècle avant Jésus-Christ, dans le nord de l'Inde, et les récits de la naissance de Gautama sont extraordinaires. Maya Devi, sa mère, l'aurait conçu en songe dans le palais de Kapilavastu. Alors, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'elle observait une abstinence depuis 7 jours. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que c'est un éléphanteau blanc, avec 6 défenses, qui tient dans sa trompe un lotus blanc qui va pénétrer le corps de la future mère de Gautama. Il va la pénétrer par le flanc et elle va accoucher quelque temps plus tard, debout, accrochée à une branche dans le jardin de Lumbini, au cours d'une nuit très particulière, avec la pleine lune, avec une pluie de pétales de fleurs. Ce qui est étonnant, c'est que le futur Bouddha va sortir de sa mère sans la blesser, par le flanc même où il a été conçu. Parmi les naissances les plus glorieuses de la mythologie hindoue, citons également Hanuman, ce singe blanc aux larges mâchoires que l'on retrouve dans le fameux conte du Ramayana, fils du vent et de Anjana, sa mère. Alors lui, il va être enfanté par l'oreille. La tradition zoroastrique est également imprégnée de mythologie, car selon le Denkar, qui est un recueil du Xe siècle, Sao Shiyan, qui est le sauveur suprême dans la mythologie perse, puisque nous sommes dans ce pays, va naître d'une vierge qui s'est imprégnée de la semence de Zarathoustra alors qu'elle se baignait dans un lac. Dans la trinité hindoue, Brahma, le créateur, serait né, lui, d'un œuf pondu par Aditi, la mère des dieux, une mère sans père. Ça nous amène, bien sûr, au temps moderne. N'oublions pas la mythologie égyptienne. Alors elle, sa particularité, c'est que la grossesse de la mère d'Osiris et d'Isis porte donc des jumeaux, les deux, frères et sœurs, et particulièrement intéressant parce que déjà, ils ont in utero des relations incestueuses, au point que Isis, lorsqu'elle naît, va être enceinte, déjà, de son frère. Toute une histoire. Voyons maintenant ce que nous dit la Bible, puisque Bereshit, en hébreu, signifie le commencement. Et le début du début, c'est ce qu'on trouve dans les premières lignes du chapitre de la Genèse. Dieu, à partir du limon de la terre, insuffle le souffle de vie. Il crée l'homme et la femme à son image. Alors, on s'arrête un instant sur cette phrase. En même temps, successivement, toute une question d'interprétation des textes. Il est écrit qu'il n'est pas bon que l'homme reste seul toute sa vie, et de plus, il a comme objectif d'établir une descendance. Aussi, au 6e jour de la création du monde, alors qu'Adam va sommeiller quelque part, Dieu va lui enlever une de ses côtes et mettre de la chair à la place. Avec cette côte, il va former une femme, la fameuse Ève. Reste qu'il y a une grande discussion. Est-ce bien une côte de l'homme ou à côté de l'homme ? Vous voyez que la position de la femme égalitaire ou dépendante n'est pas la même. Est-ce qu'Adam était hermaphrodite ? De toute façon, comme l'un et l'autre sont nés sans cordon ombilical, on ne voit pas leur ombilique, que ce soit une bisexualité originelle ou que ce soit à partir du flanc de l'homme, que ce soit une création simultanée ou bien une création successive, l'une postérieure à l'autre, ces naissances ne passent pas par les voies habituelles de la conception humaine, c'est-à-dire le développement d'une grossesse intra-utérine et son maintien 9 mois grâce à l'action du placenta qui est relié au corps de la mère, comme nous le verrons un peu plus tard. Une autre naissance des plus célèbres est certainement celle de Jésus de Nazareth, il y a plus de 2000 ans à Bethléem. Les circonstances de sa naissance sont inspirées de l'évangile de Marc, qui est raconté dans les 2 évangiles, celui de Matthieu et celui de Luc. Mais quelques différences sont dans ces récits, et attachons-nous au point commun. Le point commun, c'est que le père de Jésus, Joseph, est juif, et que d'autre part, il est d'ascendance davidienne. Et que d'autre part, l'absolue virginité de Marie, virgo ante partum, in partu, post partum, comme le dit saint Augustin, elle est totalement vierge avant le début, au début et à la fin. Arrêtons-nous sur l'action du Saint-Esprit qui est représentée dans de nombreux tableaux merveilleux que j'adore, qui sont ces annonciations de l'ange Gabriel qui porte la bonne nouvelle, et on voit ce mouvement d'étonnement, d'accueil et en même temps de recul une fois faite cette annonce à Marie. L'annonce, c'est qu'elle allait concevoir sans jamais avoir connu d'homme, bien que mariée. Marie est vierge, hantée conceptionnellement. Marie, c'est l'enfant de Joachim, riche juif respecté, et de Anne. Les deux eurent beaucoup de mal à avoir un enfant. Marie, dès l'âge de ses 12 ans, est confiée à Joseph, qui lui n'était plus tout jeune. Vierge mais enceinte, va-t-elle être aussi vierge après l'accouchement ? À Bethléem, après la naissance, une sage-femme prénommée Salomé est sceptique sur le fait qu'une vierge ait accouché. Elle aurait dit « Si je n'examine pas sa nature, je ne croirai nullement qu'une vierge ait enfanté. » Lorsqu'elle va introduire un doigt dans la nature de Marie, elle se brûle et bientôt sa main se dessèche. On ne doit pas douter de la parole divine. L'enfant est bien né sans laisser aucune trace. Ce point est cependant débattu, même assez vertement, par le théologien Origène, au 2e-3e siècle après Jésus-Christ, puisqu'il écrit que l'enfant Jésus a ouvert la vulve de sa mère. Tertullien, au 3e siècle, mentionne les immondices qui recouvrent le nouveau-né, et Jérôme, un peu plus tard, au 5e siècle, précise que le Christ est souillé en sortant du sein de sa mère. Cependant, d'autres, comme Amboise et Augustin, considèrent que même si Jésus a emprunté les voies naturelles pour venir au monde, cela n'aurait en aucune façon affecté la virginité de sa mère, car sa vulve s'est immédiatement reformée après. Le débat n'est certes pas terminé. 2000 ans plus tard, les techniques d'insémination intra-utérine ou de fécondation in vitro permettent en vrai, en réalité, la réalisation d'une maternité physiologique sans qu'il y ait eu de rapport sexuel. Mais la naissance de l'enfant Jésus, c'est une autre affaire, bien loin du biologique. Alors, lorsqu'on regarde ces naissances extraordinaires, elles ont un point commun. La mise au monde est totalement asexuée. On évite le coït, on évite le séjour in utero, et l'accouchement ne se fait jamais par les voies naturelles, donc les voies sexuelles. C'est dans ce sens-là que ces naissances sont mythiques et extraordinaires, parce que c'est tantôt par la tête, tantôt par la cuisse, tantôt par la côte, tantôt par l'oreille ou par le flanc que l'enfant « divin » entre guillemets vient par le monde. Ces conceptions virginales hors sexe posent bien sûr pour les rationalistes un problème. Cet évitement sexuel peut être compris comme un recours au surnaturel afin de marquer la différence avec le commun des mortels, à savoir, pour lui, la nécessaire relation sexuelle pour concevoir, rattachant l'homme au monde animal qui l'entoure. Mais il signifie quand même l'opprobre de la sexualité, même lorsqu'elle est librement consentie, choisie. De nombreux progrès médicaux, comme la contraception, la médicalisation de l'IVG, la préservation de la fertilité, la fécondation in vitro, ont augmenté la possibilité de maîtrise du projet d'enfant. Un enfant si je veux, quand je veux, mais aussi tant que je peux. Cette distanciation de la maternité et de la sexualité est certainement la révolution la plus profonde de l'humanité, puisque le statut de la femme va changer, et donc les rapports homme-femme en conséquence. Beaucoup plus égalitaire. Y a-t-il des limites à toutes ces techniques qui visent à maîtriser le désir d'enfant ou sa survenue ? Nous verrons si l'éthique a besoin de contes pour enfants pour exister dans le merveilleux. Une histoire de la naissance par René Friedman. À la technique Pierrick Charles, réalisation Charlotte Roux. Dans l'épisode suivant, nous irons à la découverte des rituels et des croyances autour de la naissance.